montage, Türkçe ve Ermenice.
Sur cette dalle, il est écrit en arménien et en turc. Randink a été tué ici le 17 janvier 2007 à 15h05. Je vais maintenant à mon bureau comme tous les jours. À présent, il y a un agent de sécurité qui surveille l'entrée de l'immeuble.
L'assassinat d'un journaliste suscite toujours une certaine émotion et l'élimination à Istanbul en pleine rue cet après-midi de Randink a valeur de symbole et provoque de nombreuses réactions.
President Chirac of France called it an abominable act, depriving Turkey, he said, of one of its most courageous voices. Randink was shot in broad daylight in Istanbul.
Randink est l'homme qui a permis de lever le tabou du génocide arménien en Turquie. Journaliste turc d'origine arménienne, il a été assassiné en 2007. Ses déclarations publiques sur le génocide de 1915 lui avaient valu l'hostilité de l'État turc, qui nie toujours ce crime de masse. Son assassinat par les milieux nationalistes a révélé qu'un siècle après le génocide, il est toujours très difficile d'aborder ce sujet en Turquie, même si le combat de Dink et sa mort ont provoqué une prise de conscience chez beaucoup de ses concitoyens. Après le silence, après le malaise, le temps de parler est venu. Le combat de Dink a commencé en 1996 avec la création d'un journal, Agos, qui signifie « sillon » en arménien et qui a changé le visage de la Turquie. D'abord destiné à la communauté arménienne, Agos est vite devenu le premier hebdomadaire bilingue arménien-turc. Randink avait compris que pour toucher l'opinion, il fallait écrire dans les deux langues. Homme de réconciliation, il entendait ouvrir les mémoires des deux peuples. À la télévision turque, sa parole, franche, viscérale, revendiquait en même temps son origine arménienne et sa citoyenneté turque.
Le combat pour la démocratie, pour le droit de vivre comme un être humain, et je vis ici avec mes deux identités, turque et arménien. Qu'on le veuille ou pas, que l'on soit réticent à le déclarer ou pas, nous, les Arméniens de Turquie, nous sommes de la même souche que ceux qui vivent dans le pays qu'on appelle l'Arménie, aussi bien que les Arméniens de la diaspora à travers le monde. Nous sommes les jeunes pousses chargés de la relève du même arbre. Cet attachement moral n'est en rien contradictoire avec le statut de citoyen de la Turquie et il n'implique évidemment aucune notion de trahison envers cette citoyenneté. Être un bon citoyen du pays dans lequel on vit, ça n'empêche pas qu'on puisse se sentir moralement lié à ceux des nôtres qui vivent sur un autre bout de territoire. Mais ça n'empêche pas non plus que l'on fasse tout son possible pour voir advenir le bonheur des gens de ce pays.
C'est en voyant Dink à la télévision, en écoutant sa parole vraie et sans détour, que certains Turcs ont éprouvé pour la première fois une forme d'empathie pour les Arméniens. Au-delà de la mémoire d'une communauté, il apparaissait comme un militant de la démocratie en Turquie. Et c'est en tant que démocrate et citoyen turc qu'il proposait de relire l'histoire. C'est au siège de l'hebdomadaire Agos, en plein cœur d'Istanbul, qu'il faut aller pour mieux comprendre le combat de cet homme complexe et son engagement. Nous avons eu la chance d'y rencontrer Sarkis Seropian, décédé depuis, qui était devenu la mémoire du journal et avec qui Rant l'avait fondé. Nous voulions comprendre où en était le combat de cet homme. Randink, ou la mobilisation contre le déni. Un portrait en filigrane de l'homme, à travers son journal Agos, son combat, sa femme, ses amis avant et après sa mort. Un portrait aussi d'une certaine Turquie démocrate qui fait face à son propre passé et à son déni.
J'ai connu Randink il y a longtemps, quand il était étudiant.
Sarkis Seropian, ancien rédacteur en chef des pages arméniennes du journal Agos.
Un jour, il est venu au magasin où je travaillais. Il m'a dit « Veux-tu qu'on sorte un journal ensemble ?» Moi, je vendais des frigos et j'en avais marre. J'étais devenu trop vieux pour ça. Je n'avais aucune autre expérience que celle d'avoir publié de temps en temps des récits de voyages dans des journaux arméniens. J'allais en Anatolie orientale, c'est-à-dire l'Arménie historique. Ça m'intéressait car c'est de là que viennent mes ancêtres. Aller là-bas me procurait une force vitale. Quand on a sorti Agos, on voulait que ce soit un journal différent. Il était temps de sortir ce journal, alors que certaines questions commençaient à être débattues en Turquie. Il y avait des éléments de démocratie, même si ça ne peut pas s'appeler la démocratie. Mais petit à petit, c'était la fin de la période de dictature militaire. Nous avions souhaité un journal arménien en turc, avec une partie en langue arménienne. Notre souhait était de nous faire connaître, nous les Arméniens, par les Turcs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de notre origine. Car personne ne nous connaissait en Turquie. On pensait qu'on était des traîtres qui avaient tous fait alliance avec les Russes et que les nôtres avaient été exilés pour ça vers la Syrie. Ou même un peuple qui avait mis les musulmans dans des mosquées pour les brûler. Les livres racontaient ça. Jusqu'à aujourd'hui, les livres d'histoire utilisés dans les écoles turques écrivent ça. Il fallait qu'on change cette image. Et il fallait pour ça que ce journal sorte en langue turque.
C'est en turc que Dink écrivait sur le génocide. C'est pour cela qu'il était souvent invité sur les plateaux de télévision. Il y défendait des positions le plus souvent inacceptables pour la majorité des Turcs. Émission Siyaset Meydani, La Reine politique, 2005.
L'histoire, ça peut être un document. Mais regarder l'histoire, ça ne peut pas se limiter à un document. Ça demande autre chose. Ça demande un positionnement éthique. Donc, je laisse tous ces documents de côté et je me fie à la seule chose qui compte pour comprendre l'histoire, le résultat. C'est quoi, selon vous, le chiffre minimum d'Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman ?
1 250 000.
De ce 1 250 000 Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman, 300 000 sont restés après la fondation de la République turque en 1923. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 50 000. Qu'on dise que ces 900 000 personnes soient parties ailleurs ou sont mortes ou ont été déportées, le terme qui le désigne, pour moi, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui m'importe, c'est de dire que ces gens-là ont été arrachés aux terres où ils vivaient. Être arraché à la terre où on vit, ça revient à être simplement arraché à la vie.
Le journal Agos a été un lieu majeur de construction, un lieu important d'une restitution de la mémoire arménienne en Turquie. Dans la rubrique « Il était une fois », le journal reprenait chaque semaine le travail de l'historien Raymond Kevorkian et restituait région par région, ville par ville, le nombre d'Arméniens qui y habitaient. Il indexait aussi les églises, les monastères, indiquait des dates, etc. Et le résultat était publié semaine par semaine.
Agos a commencé à être lu par des lecteurs qui n'étaient pas qu'arméniens. Parmi ces personnes, certaines soupçonnaient que leur grand-mère ou grand-père soit arménien. Ils sont venus vers nous en disant : nos grands-parents sont morts, mais on soupçonne qu'ils étaient des Arméniens. Pouvez-vous nous aider ? Avez-vous des archives ? On a commencé à recevoir beaucoup de demandes. Car on connaissait bien l'Anatolie, le village où vivaient les Arméniens. Les noms des villages nous étaient très familiers. On avait trouvé un moyen, on mettait des petites annonces dans le journal pour aider ces gens à retrouver leur famille perdue. De cette manière, le journal parvenait aussi à des lecteurs arméniens qui vivaient à l'étranger. On essayait même de faire circuler leurs annonces dans d'autres journaux arméniens de la diaspora. Avec le temps, on sentait qu'on pouvait se permettre de plus en plus de liberté. Ceci nous faisait plaisir car on avait l'impression de contribuer à la démocratisation de ce pays. Donc on n'avait pas peur. Rant était très courageux. Jusqu'au jour où le chef de l'état-major des armées nous a attaqué sur un article. Rant avait écrit sur Sabiha Gökçen, une héroïne nationale en Turquie. C'était la première aviatrice du pays et surtout la fille adoptive d'Atatürk, fondateur de la République turque. Tout le monde connaissait l'histoire de cette Sabiha, orpheline arménienne, qui avait pris plus tard le nom turc de Gökçen. Selon les militaires, c'était une accusation très grave. Et d'ailleurs, ils ont adressé des menaces à Rand sur le site même du chef d'état-major. C'était des menaces ouvertes. Tout le monde le savait, mais c'était un tabou de dire que la fille d'Atatürk était arménienne. Et Rand avait touché à ce tabou-là. C'était la transgression de trop.
En 2005, Rand Dink fut condamné à 6 mois de prison avec sursis pour un article qui, selon le tribunal, allait à l'encontre du code pénal turc et sanctionnait le dénigrement de l'identité nationale turque. Une partie de la presse adhéra à l'avis de la justice et Rant devint une cible des milieux nationalistes.
On n'a jamais pensé qu'on allait l'assassiner pour le mettre hors circuit. Jusqu'à ce qu'il soit tué. Rant avait pressenti ce qui allait se passer, mais c'était déjà trop tard.
Funérailles de Rant Dink, janvier 2007. L'assassinat de Rant Dink a eu l'effet d'un électrochoc dans une partie de la société turque. Lors de ses funérailles, un slogan totalement inédit et improbable en Turquie a retenti dans les rues d'Istanbul, repris et entonné par des milliers de manifestants. Nous sommes tous des Arméniens. Une marée humaine, hommes, femmes, de toute génération, gigantesque, une foule solidaire manifestant tous ensemble et au-delà de la peur, du jamais vu en Turquie. Dans la foule, Raquel, la femme de Rant Dink, lui lit sa dernière lettre d'amour. Oh, mon amour, tu as quitté les gens que tu aimais et qui t'aimaient, tu as quitté tes enfants, tu as quitté tes petits-enfants. Il vous a quitté aussi, vous qui êtes rassemblés ici. Tu as quitté mes bras, mais tu n'as pas quitté ton pays, mon amour.
Bence istemiyordu hepsini bilelim ve de korkuyla yaşamamızı istemiyordu. Ondan bizden çok şeyi gizledi sonra.
Je pense que mon mari ne souhaitait pas qu'on connaisse les menaces qui pesaient sur lui et qu'on vive avec la peur.
Raquel dit.
Donc il nous a caché beaucoup de choses.
Düşünmedik. Sonra şu da var ki gerçek.
J'ai appris bien après que les menaces étaient très importantes.
Dünyanın her yerinde de yapabilirler diye gerçeği de var.
Mais on n'a pas pensé à partir.
Ama gene de.
Par ailleurs, s'ils étaient vraiment décidés à le tuer, ou que ce soit, ils l'auraient fait. C'est une réalité. Mais Rant avait ce sentiment et cette croyance qui lui faisait dire
«
Mais non, voyons, la Turquie a changé. Elle s'est démocratisée. Les gens sont au courant des droits de l'homme. À notre époque, pourquoi ils me tueraient ? Et s'ils le faisaient, ma mort la servirait encore plus. » Ils pensaient que ceci ne ferait que les desservir. Ils l'ont tué. Hélas. Et de manière impitoyable. Et effectivement, au lieu de les avantager, je dirais que c'était un mal pour la Turquie. En effet, c'est une honte pour ce pays. Mais quand vous ne ressentez pas de honte, ça sert à quoi? Il faut d'abord avoir honte pour ressentir un regret, pour qu'ensuite il y ait une possibilité de renouveau, de réconciliation. Mais ils n'en sont pas encore là. Et ça, c'est pire encore que l'assassinat. Vraiment. Cet assassinat a été commis dans le même esprit que celui de 1915. L'esprit génocidaire de 1915. Celui qui a été à l'origine d'un tel crime a aussi tué mon mari. Donc, faire face à cet assassinat, c'est presque comme faire face au génocide des Arméniens. Mais on n'a pas trop d'espoir pour que justice soit faite. Pendant les funérailles, ça nous a touché de voir la foule. Les gens qui se tenaient par la main. La foule qui criait « Nous sommes tous Rant, nous sommes tous Arméniens ». Tout ça nous a incités à rester dans ce pays. Et après l'assassinat d'un homme qui était prêt à donner sa vie pour que son pays se démocratise, on n'a pas pu se dire « Allez, on y va ». On n'a pas eu la force. Et ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas bien, non. Il valait mieux continuer son combat avec le soutien des amis. On s'est dit que c'était le meilleur choix et on est resté. On n'a pas pensé à partir.
La Turquie multiculturelle, revendiquant la diversité de ses origines, turque, kurde, arménienne, s'est mobilisée pour Rant. Peu de temps après sa mort, beaucoup d'amis ont mis en œuvre une pétition pour demander pardon aux Arméniens. Appel au pardon, Istanbul, 15 décembre 2008. Ma conscience ne peut accepter que l'on reste indifférent à la grande catastrophe que les Arméniens ottomans ont subie en 1915 et qu'on la nie. Je rejette cette injustice et pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes sœurs et frères arméniens et je leur demande pardon.
Moi, je pensais au pardon même du vivant de Hrant Dink. Je pensais à
Cengiz Aktar, politologue.
Quelque chose, une pétition. Après son assassinat, j'étais plus que convaincu qu'il fallait faire quelque chose. J'en ai parlé à 3 amis. Et on a réuni quelques 200 autres amis qui ont accepté de signer cette pétition qui a démarré donc avec ces 200 et quelques signatures le 15 décembre 2008. Une demande de pardon personnelle qui a fonctionné sur le web, qui ne parle pas de génocide, qui parle de la grande catastrophe, mais qui utilise une formule que les Arméniens utilisaient à l'époque, Mezihern. Donc qui a accueilli quelques 20 000 signatures en quelques jours, c'était du jamais vu, ça a remué beaucoup la Turquie à l'époque. Rant, j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, je pleure toujours, je le pleure toujours, mais il y en a qui l'appellent le Martin Luther King de Turquie, moi j'aime pas ces analogies, il est le Rant Dink de Turquie en fait. Il était capable de convaincre le pire négationniste, vraiment. Il s'embrassait à la fin. Et il était capable de convaincre son ennemi. Et c'est très probablement pourquoi il a été tué, d'ailleurs, parce qu'il était, trop fort. Il était trop fort.
Robert Koptaş, ancien rédacteur en chef du journal Agos.
J'ai 37 ans. Quand Agos a été fondé, j'avais 18 ans. Je venais de rentrer à la fac. Je viens d'une famille qui a un passé traumatique. Avant et après sa mort, il y a eu certainement l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes Arméniens en Turquie. Avant moi, mes parents et mes grands-parents adoptaient l'attitude des minorités, celle de se taire.
benimsemişlerdi. Yani susmak, konuşmamak, mümkün mertebe gizlenmek.
Mais nous, moi et la génération d'après, celle qui a suivi Hrant et Agos, on est différents. Tout en gardant notre identité arménienne, nous restons des citoyens turcs et nous souhaitons un changement pour la Turquie avec plus de démocratie. Nous ne voulons plus limiter notre existence à la seule communauté arménienne comme l'ont fait nos parents.
Pour des générations entières, il a été celui qui a brisé le silence arménien en Turquie.
Hamit Bozarslan, historien.
Chaque 24 avril, les Arméniennes étaient obligées de faire acte d'allégeance à l'État et de dire que par le passé, ils avaient été manipulés par les forces extérieures et qu'ils s'entendent à merveille avec les musulmans et avec les Turcs et qu'ils n'ont aucun problème. Hrant Dink a brisé ce tabou. Et Hrant Dink n'a pas seulement brisé ce tabou, a brisé aussi le tabou de l'Empire ottoman multiculturel tolérant, de cet islam tolérant qui n'est qu'une religion d'amour et de paix. Donc il y a eu ce discours, la charpente de discours officiel dans toutes ses variantes, kémaliste, nationaliste ou islamiste, a été brisée. Et de ce point de vue-là, je dirais que bon, effectivement, j'ai une admiration considérable pour Hrant Dink.
Il nous mobilisait.
Ali Bayramoğlu, politologue.
Dynamique, énergique, et à mon avis, c'était un grand type de leader politique. On donnait la même importance à cette histoire des Turcs, des Arméniens. On le trouvait très déterminant concernant la démocratie turque, mais aussi concernant la démocratisation des Arméniens. Moi, finalement, j'ai changé toute mon approche intellectuelle, toutes mes hiérarchies. J'ai commencé à faire de nouveau une grande série de lectures. J'ai fait une sorte d'aveu, si vous voulez. Donc, Rant, c'était un catalyseur.
Beaucoup de Turcs se sont éveillés après ce très long rêve. Comment croire désormais au récit officiel enseigné dans les écoles ? L'histoire officielle d'une Turquie fondée en 1923 sur les décombres de l'Empire ottoman et guidée par Mustafa Kemal Atatürk, libérant le pays des puissances étrangères qui voulaient se le départager. Un récit sans Arméniens, bien sûr. Ou alors des Arméniens traîtres, pactisant avec l'ennemi pour détruire la Turquie.
Je crois que Taner Akçam, qui a été le premier historien à contester ouvertement le discours officiel turc sur le génocide, nous a apporté pas mal d'éléments pour comprendre pourquoi la Turquie est dans le déni absolu 100 ans après. Il a dit ces phrases qui sont absolument remarquables à mon avis. Si on reconnaît leur existence, cela reviendrait à reconnaître notre inexistence. Il y a un rapport dialectique entre l'existence des Arméniennes, jadis, et notre non-existence. En les détruisant qu'on a gagné l'existence. C'est en nous enrichissant sur leurs biens que nous avons été capables de construire une économie nationale. C'est en nous emparant de leurs terres que nous avons créé un récit national turc.
Mais pour connaître l'histoire d'avant 1923, il fallait avoir une curiosité personnelle. Il fallait vouloir apprendre au-delà des livres d'histoire officiels. Une soif de savoir vouée à l'échec dans un pays où il était difficile, avant Agos, de trouver des écrits sur le génocide des Arméniens. L'un des revirements les plus spectaculaires, c'est celui de Hasan Cemal, un des journalistes les plus connus en Turquie, et petit-fils de Cemal Pasha, l'un des trois dirigeants du comité Union et Progrès. Celui-là même qui a commandité le génocide des Arméniens en 1915.
Sur le génocide arménien de 1915, tout ce que j'en savais avant 1970 restait dans le cadre de l'histoire officielle.
Hasan Cemal, journaliste et écrivain.
Voici comment on la racontait. C'était la guerre. Les Arméniens faisaient alliance avec les ennemis. Il fallait nettoyer tous ceux qui faisaient alliance avec nos ennemis. Et la déportation était le résultat de tout ça. Ça s'arrête là. Cemal Pasha est mon grand-père.
Cemal Pasha, 1915.
C'était l'un des trois leaders du parti Union et Progrès qui ont commandité le génocide des Arméniens. Quand on discutait en famille, on disait pendant la déportation, à cause des conditions climatiques, du banditisme, etc., des souffrances que nous n'avions pas souhaitées se sont produites. Et ça s'arrête là. En 2012, j'ai écrit un livre sur le génocide des Arméniens. Tous mes livres parlent des problèmes de la Turquie vus à travers mon prisme à moi avec mon regard de journaliste.
Yani baktığım vakit ne bileyim siyaset bilimi okumuş.
Comment se fait-il qu'un journaliste qui a fait ses études à la fac en sciences politiques à Ankara dans les années 60 n'est pas au courant de ce qu'est le génocide de 1915, de la question kurde? Il n'a même pas entendu le mot kurde ou le mot alévi pendant ses 4 ans d'études, ni entendu parler des pogroms contre les juifs des années 30 et contre les non-musulmans plus tard. Je suis cet homme, Hassan Cemal, qui a fait ses études comme ça, comme si son cerveau était prisonnier. Avant, j'étais un kémaliste radical qui était du côté des militaires à tout point de vue. En janvier 1973, le premier diplomate turc assassiné, Bahadir Demir, était un ami très proche. On a grandi à Bebek, ici même où on a fait cette interview. Il a été tué par un vieil Arménien de Turquie. Plus tard, Asala a tué d'autres amis. Au total, 52 diplomates turcs ont été tués dans des attentats.
L'Azala, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, s'est fait connaître en 1975 en revendiquant les attentats successifs des ambassadeurs de Turquie à Vienne en Autriche et à Paris. Son premier objectif, faire reconnaître par Ankara le génocide de 1915, où 1 500 000 personnes étaient massacrées en quelques mois sur ordre du gouvernement turc de l'époque. Depuis, l'organisation arménienne a mené des actions violentes un peu partout.
J'ai condamné ces assassinats hier comme aujourd'hui, mais... Bien sûr, ces assassinats ont focalisé l'attention sur la question arménienne, aussi bien au niveau international qu'en Turquie même. Pourquoi ces gens-là commettaient-ils des assassinats? Les Turcs disaient, qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi les gens tuent nos diplomates? C'est des mensonges. Ils veulent juste raconter des histoires pour dire du mal de la Turquie. Mais c'est comme ça que nous avons recommencé à débattre de tout. Avec la terreur d'Asala dans les années 80, le génocide de 1915 a commencé à faire l'objet de débats. Que s'est-il passé? Et ce questionnement a continué. Car quand on a oublié le conflit des classes et qu'on a commencé à parler des identités et donc de l'histoire, on était obligé de revenir en arrière et reconsidérer les événements de 1915. Et là, on a commencé à changer de discours. On a commencé à utiliser le mot « tragédie ». Dans les articles que je publiais dans le quotidien « Cumhuriyet », je disais « Ils essayent de créer de l'animosité à partir de l'histoire. Ce n'est pas un génocide, c'est une tragédie. Mais n'oublions pas les conditions de guerre de l'époque. » Mais mine de rien, c'était une manière pour moi et pour nous de se remettre en question à propos de 1915. Les gens disaient massacre, tragédie, the cut. Mais personne ne disait génocide. Ce mot était tabou. Ça a pris beaucoup de temps pour détruire ce tabou. Moi, personnellement, j'ai raconté en détail, en 2012, le long cheminement que j'ai fait pour accepter l'utilisation du mot « génocide » dans mon livre « 1915, le génocide arménien ». Je me souviens, on était en bateau entre amis et on débattait
beaucoup.
Tout le monde disait, bon, tu parles du génocide à l'intérieur du livre, mais évite de le mettre sur la couverture, c'est peut-être trop. Mon éditeur aussi a insisté. Mais je n'ai pas voulu et je n'ai rien changé. Quand le livre est sorti, avec le titre « Génocide des Arméniens », on m'a conseillé de partir pour quelques mois à Londres. J'y suis allé, je me suis ennuyé et je suis revenu. La maison d'édition a embauché un garde pour ma sécurité pendant quelques mois quand le livre est paru. Voilà. Je vous parle de ça, d'utiliser le mot génocide ouvertement, mais je ne souhaite absolument pas que ceci soit considéré comme un acte héroïque. J'ai fait ça en tant que Turc pour confronter mon propre passé, mon processus concernant le déni.
Malgré les amis de Rant et des dizaines de milliers de citoyens turcs qui font un travail de mémoire considérable, l'État turc n'a jamais reconnu le génocide. Et le déni reste majoritaire dans l'opinion publique, comme on a pu l'entendre dans les rues d'Istanbul.
Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un seul peuple qui aurait été opprimé dans l'histoire ottomane. Si les Arméniens disent que c'est un génocide, nous aussi on peut dire ça pour ce qu'ils nous ont fait. Le passé est au passé. Il faut oublier le passé. Pourquoi ce serait la faute aux nouvelles générations ? Il n'y a rien qui s'appelle génocide des Arméniens. Ça, c'est l'invention des Arméniens. C'est vraiment une situation tragique. Il faudrait en parler. C'est très naturel qu'un Arménien souffre de cette histoire. J'aimerais les soutenir. Je ne pense pas qu'il y ait eu un génocide des Arméniens. Ce n'est pas dans notre tradition ni dans notre caractère. Pour moi, le génocide, ce n'est pas juste un massacre d'êtres humains. C'est aussi un massacre de toute une culture. C'est ce qui est en train de se passer depuis l'époque ottomane. C'est une tradition ici.
Fatih Portakal présente le JT le plus regardé en ce moment en Turquie. Il est lui aussi assez représentatif de l'opinion publique turque.
Pour ne pas heurter la sensibilité de nos spectateurs, nous utilisons le terme « soi-disant » chez le site des Arméniens en parlant des événements de 1915. Pourquoi ? Si vous demandez mon avis, je pense effectivement qu'une commission d'historiens devrait s'en charger. La Turquie doit faire face à son passé, mais l'Arménie aussi. Parce qu'on a envie de savoir. Nous avons le droit, nous, en tant que future génération, de savoir ce qui s'est passé. Un génocide a-t-il bien eu lieu ? Ou bien est-ce un soi-disant génocide ? On ne le sait pas. Nous, on préfère dire les événements de 1915, ou bien le soi-disant génocide des Arméniens. Vous savez, dans nos cours d'histoire, on nous a toujours raconté que c'est un soi-disant génocide. C'est une invention, un mensonge des Arméniens. C'est comme ça qu'on l'apprend aux nouvelles générations. Mais des historiens indépendants des deux pays, de la Turquie et de l'Arménie et d'autres historiens indépendants, peuvent se réunir pour analyser ces événements de 1915. Moi, je souhaite que ceci ne devienne pas un enjeu politique. C'est l'affaire des historiens. C'est leur devoir. Si les historiens s'y impliquent, nous serons tous éclairés.
Ranting.
L'établissement d'une mémoire commune est le plus important des objectifs pour les sociétés turques et arméniennes. Vital pour chacun d'entre nous. De ce point de vue, la formule « laissons l'histoire aux historiens » n'est pas tout à fait juste. On peut laisser, en effet, le métier d'historien aux historiens, mais pas l'histoire. Sans compter que dans le contexte qui est le nôtre, ce discours souffre d'une certaine mauvaise foi. Dans la presse, dans les médias visuels ou dans des livres scolaires, on veut nous faire avaler qu'on écrit l'histoire en comptabilisant les squelettes. Les manuels d'histoire sont pleins de définitions hostiles. Ils s'en dégagent la pire des animosités. Est-ce cela, laisser l'histoire aux historiens ?
Si par le fait qu'il faut laisser les historiens travailler et savoir décider s'il y a un génocide, cette idée me paraît totalement absurde parce que les historiens ne font que ça. Les historiens ne peuvent pas être les seuls à se prononcer sur le génocide.
Hamit Bozarslan.
Il s'agit d'un crime collectif commis quand même contre une communauté qui a été éradiquée. Cela ne signifie absolument pas que les Turcs d'aujourd'hui ou les Allemands d'aujourd'hui seraient responsables du génocide, mais la société a été le cadre dans lequel ce crime a été commis, et il n'y a que la société qui peut devenir le lieu d'un débat fructueux autour de ce sujet. Une cité, une société qui ne discute pas des crimes passés ne pourrait jamais être une société qui pourrait dire plus jamais ça. Le discours négationniste n'est peut-être plus là, mais le discours reste extrêmement agressif. On utilise de plus en plus le discours de la mémoire juste. La mémoire juste signifie que, bon, certes, les Arméniens ont souffert, mais nous, les musulmans aussi, puisque pendant la Première Guerre mondiale, on a été attaqués. Donc, on oublie de dire que la guerre a été lancée par le Comité Union et Progrès. Donc, on a été attaqués et il y a eu des morts de deux côtés. Donc, les deux souffrances sont égales. Et ce discours, c'est exactement le discours des responsables nazis au tribunal de Nuremberg. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la Turquie avance vers ce discours, qui est un discours peut-être encore pire que le discours de la négation en tant que tel.
C'est cet État-là qui a commis le génocide. Pourquoi voulez-vous qu'il l'accepte? En plus, il n'a pas perdu de guerre comme les Allemands. Alors, pourquoi voulez-vous que cet État se dérange pour maintenant reconnaître
Cengiz Aktar,
ce qui a été fait? D'autant plus qu'une reconnaissance voudra dire, tôt ou tard, une réparation matérielle par rapport aux biens immatériels que par rapport à la fortune ou alors à ce que les Arméniens ont perdu, ont dû le laisser derrière en prenant le chemin du désert de Syrie. Voilà pourquoi l'État turc aura beaucoup, beaucoup de mal à reconnaître.
Et ce sujet sur les biens est malheureusement le plus dur à faire en tant qu'historien. Parce que l'État turc n'ouvre pas ses archives sur les cadastres.
Nazan Maksudian, historienne.
C'est vraiment un trou noir où l'on ne peut pas faire de recherche d'archives. Ce n'est possible qu'au niveau local. À l'échelle régionale. Dans les villages, c'est éventuellement possible. Car les gens, eux, savent. Le déni en Turquie est le plus grand problème et le plus grand mystère. Être prof à la fac pourrait me donner un espoir. Parce que personnellement, ma manière d'enseigner, ce n'est pas d'apprendre à mes étudiants de penser comme moi, mais de faire en sorte que ces étudiants turcs qui n'ont jamais mis en question quoi que ce soit se posent des questions. Mais bien sûr, c'est à double tranchant. J'ai un petit groupe d'étudiants qui disent « Waouh, professeur, nous n'avions jamais pensé à toutes ces questions. Et maintenant, on est tout retourné. » Et encore, ça nous plaît. Et on retourne à la bibliothèque pour lire encore et se renseigner. Mais j'ai aussi appris qu'il y a un groupe d'étudiants qui boycottent ma classe en disant qu'ils ne savent pas si je suis arménienne ou juive. Ils disent, de toute façon, c'est une étrangère. Regardez son nom de famille. Et elle parle de façon très politique et elle critique tout.
Vous savez, en Turquie, being pro-government or being pro-regime,
en Turquie, être pro-État est la norme. Et si on est un peu critique, ils disent que tu es politique. Alors que pour moi, soulever des questions, ça fait partie des devoirs de citoyenneté. C'est difficile d'apprendre ça à des étudiants turcs.
Pour ce qui est de la question « était-ce un génocide ou pas ?», je souhaite reprendre ici ma perception des choses. Mes ancêtres, je sais bien sûr ce qui leur est arrivé. Certains d'entre vous l'appellent « massacre », certains l'appellent « génocide », certains autres « déportation », et d'autres encore « tragédie ». Mes ancêtres, eux, l'appelaient à la manière anatolienne « carnage ». Quand un État livre ses propres citoyens, y compris les plus vulnérables d'entre eux, les femmes, les enfants, les vieux, à l'inconnu d'un chemin noir interminable, quand il les arrache à l'environnement où ils étaient enracinés, et que pour finir c'est un peuple qui disparaît, pour une grande part, à laquelle de nos aptitudes humaines doit-on recourir pour dire notre effort désespéré de choisir des mots qui donnent la mesure de ce qui s'est passé? Faut-il dire génocide? Ou faut-il dire déportation? Si l'on en est réduit à jongler avec le choix de l'un ou de l'autre, si l'on n'est pas en mesure de condamner les deux au même degré, quel pardonneur sauve-t-on?
En dépit de son combat pour la vérité historique, Randink pensait qu'il ne fallait pas se focaliser sur le mot génocide. Autant il combattait le déni en Turquie, autant l'idée même d'imposer une pensée depuis l'extérieur lui semblait contre-productive. Une position parfois mal comprise par certains dans sa propre communauté. Interview accordée à Frédéric Mitterrand en 2006.
Eğer herkes şunu sanıyorsa, Türkiye toplumu gerçeği biliyor ama inkar ediyor, burada yanlış.
Il est injuste de penser que la population sait la vérité, mais qu'elle la nie. D'après moi, c'est injuste. La population ne sait pas encore la vérité. Par conséquent, l'heure est venue de la révéler et de savoir ce qui s'est réellement passé. Ceux de l'extérieur qui veulent faire reconnaître le génocide et ceux qui en Turquie continuent de le nier, tous deux font beaucoup de mal aux populations de Turquie. En ce moment, la population de Turquie n'est pas prête ni à l'accepter, ni à le nier. Au contraire, elle passe par une phase d'apprentissage et elle a besoin de cette période, elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'apprendre, de savoir.
Bir Hrant'ı öldürdüler. Sağ olsunlar, milyonlarca Hrant doğurdular.
Tabii ki ben de eşimin aynı fikirdeyim. Tabii ki yasaklarla
Raquel Dink
empoze ederek kötü.
Je suis du même avis que mon mari. Bien sûr, je pense qu'il ne faut pas imposer. Il faudrait que ça vienne de la personne, de l'intérieur de la personne.
Benim lobby çalışması Türkiye ile sorunu varsa.
Les lobbies utilisent ce crime contre l'humanité comme un jeu politique. Même la France a reconnu le génocide 90 ans plus tard. Ne savait-elle pas tout ce temps que c'était un génocide? Donc pour moi, les États, ce n'est pas ça ce qui est le plus important. L'important, c'est l'individu.
Robert Koptaş.
Hrant Dink refusait les lois du Parlement français qui punissaient les négationnistes.
Türkiye'deki tartışmayı zorlaştırıcı, Türkiye'deki milliyetçi o refleksi.
Car ça ne pouvait qu'augmenter la fièvre nationaliste en Turquie et donc empêcher un vrai dialogue.
Engelleyici şeyler olarak gördü ve böyle yaptıkça da
il était donc parfois mal vu par les Arméniens de la diaspora qui pensaient que la seule manière de faire accepter le génocide à la Turquie était de l'imposer par des lois.
Il est une priorité que les Arméniens ne doivent jamais oublier, au grand jamais. Est-ce plus important que la Turquie reconnaisse le génocide ou qu'elle se démocratise? Cette question n'est pas superflue. La démocratisation de la Turquie signifie qu'elle sera alors capable d'interroger son histoire, de la connaître librement et de nommer les choses en toute conscience.
Et on était une fois, je crois, on m'a dit, alors on va à Marseille.
Ali Bayramoğlu.
On va à Marseille, j'ai dit, bon, deux Arméniens, un Turc. je rigolais à l'époque, on est allé. Bien sûr, ce qui était aimé par les gens, par les Arméniens dans le salle, c'était moi. C'était plus simple parce que j'étais un Turc, j'acceptais la jalousie, etc. Mais Randing, il demandait, il attaquait leur position. Je me rappelle, il a monté sur la table, bien il a tapé sur la table, donc il faisait une sorte de politique. Après sa mort, bien sûr, ils ont découvert qui c'était.
C'est fini tout ça. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé vraiment sous les ponts depuis que le travail de mémoire a commencé en Turquie.
Cengiz Aktar.
Exactement comme pour la société de Turquie, les sociétés diasporiques changent aussi à une vitesse VV'. C'est un effet domino. Chaque jour, il y a de nouveaux Arméniens de la diaspora qui viennent en Turquie. Ceux qui avaient juré de ne jamais mettre les pieds sur les terres de leurs ancêtres.
Nous avons vécu très longtemps ensemble sur ces terres. Nous avons une mémoire commune. Cette mémoire commune, nous l'avons divisée en mémoire monophonique. Nous ne jouons les uns et les autres que les accords que nous connaissons. Pourquoi ne pourrions-nous pas reconstruire notre mémoire commune en transformant le monologue en dialogue?
Cérémonie pour la restauration d'une fontaine arménienne dans le village de Habap. C'est Raquel Dink qui inaugure au nom de la fondation Ram Dink.
Biz vakıf olarak yayınlarımız var. Çünkü şimdiye kadar hep diasporadaki Ermeniler konuşmuşlardı, konuşuyorlardı. Çünkü Türkiye'dekiler cinayete kadar diyeyim.
Nous avons une fondation maintenant et nous publions des livres. Jusqu'à présent, c'était toujours les Arméniens de la diaspora qui parlaient. Car les Arméniens, jusqu'à l'assassinat de mon mari, étaient apeurés. Ils vivaient en silence dans leur coin. Bien sûr, on avait nos églises, nos écoles, mais jamais de la vie on ne parlait de 1915. Petit à petit, il se trouve maintenant des Arméniens en Turquie qui retrouvent le courage et se mettent à dire les choses. On a publié des livres. On a un livre qui raconte les biens spoliés des fondations arméniennes. C'est important pour prendre la mesure de ces biens spoliés. On va continuer ce travail dans toute la Turquie. Notre fondation fait des choses très bien. Maintenant, elle deviendra un institut. On aura une bibliothèque. Un centre d'études arméniennes. Beaucoup de gens importants font des donations à partir de leur bibliothèque. C'est presque un miracle que tout ça puisse avoir lieu en Turquie. Mais on voit bien qu'il faut se battre pour obtenir ses droits. Cela a coûté la vie à mon mari. Il a donné sa vie pour cette cause. La fondation travaille bien et il y a tellement de jeunes qui viennent y travailler en tant que bénévoles.
Regardez.
Willy Brandt, 1970 yılında.
Quand Willy Brandt s'est excusé en s'agenouillant devant tout le monde dans l'Allemagne de l'époque, il n'avait le soutien que de 35% seulement. Ça veut dire que 65% de la population n'approuvait pas ce geste dans l'Allemagne de 1970 suite à l'Holocauste.
Şimdi düşün, Türkiye'de, Türkiye gibi milliyetçiliğin, devletin,
imaginez-vous cela en Turquie, où la pensée nationaliste est si forte, où l'idéologie de l'histoire officielle est si enracinée. Suite à la mort de Ram Dink, 30 000 Turcs ont signé un manifeste, l'appel au pardon, pour s'excuser auprès des Arméniens. Plus de 100 000 personnes ont marché lors de ces funérailles en criant « Nous sommes tous Arméniens ». Si vous faites attention, vous verrez que les commémorations de Hrant chaque année sont très vivantes. Alors qu'aucun intellectuel turc tué de la même manière n'aura ce type de commémoration. C'est qu'il y a quelque chose là. Un tournant, une déchirure.
C'est vrai, en Turquie, les voix sont de plus en plus nombreuses à s'élever contre le silence d'hier. Dans la société civile, on se mobilise au nom de la mémoire. Chacun sent que le combat de Randink doit être poursuivi dans le pays. Son pays où il est toujours si difficile de défendre ses idées et sa lecture de l'histoire.
Voici le bureau de Rant. À part cette table et cette vitrine, rien n'a changé. Voyez ici, les photos sont placées comme autrefois. C'était exactement comme ça avant sa mort.
Pendant que nous terminions cette émission, une autre voix précieuse s'est éteinte. Celle de Sarkis Seropion, la mémoire du journal Agos. Il était le lien entre le temps d'avant et aujourd'hui. Baron Rant est parti, Baron Seropian est parti, Agos et d'autres continuent le combat pour la mémoire.
Si vous me demandez qui était Rant, pour moi c'était un fou. Car tout son travail nécessitait le courage d'un fou. Vous savez, il y a un dicton chez nous qui dit « Si une pierre est tombée au fond d'un puits, 40 sages n'arrivent pas à l'enlever. » Mais il faudrait un fou pour enlever la pierre du puits. Il était fou, c'est-à-dire trop courageux. Ils en ont eu peur. Son cerveau travaillait très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tiré en pleine tête. Ils en ont eu peur. Mais ils n'ont pas saisi qu'ils auraient autant de réactions. S'ils avaient pensé qu'il y aurait autant de monde à ces funérailles, pas forcément des Arméniens, mais aussi des Turcs, ils auraient peut-être réfléchi un peu plus. Ils n'attendaient pas une si grande réaction.
C'était Rant ou la mobilisation contre le déni, à la mémoire de Randink, assassiné en 2007, et à celle de Sarkis Seropian, décédé il y a quelques semaines. Merci à Raquel Dink, Hassan Djemal, Sarkis Seropian, Nazan Maksoudian, Hamid Bozarslan, Ali Bayramoglu, Cengiz Akhtar, Zeynep Taskin, la Fondation Randink, le journal Agos, Robert Koptas, Altu Yilmaz, Fatih Portokal, Ozan et Kim Gokçin. Avec les voix de Jean-Yves Berthelot, Anne Stephens, Karim Misquet, Angélique Thibault, Romain Méril et Christophe-Cécile Garnier. Coordination Irène Omelianenko, prise de son Laurent Lucas, mixage Manuel Couturier, attaché d'émission Christine Bernard et Christophe-Cécile Garnier. Un documentaire de Ilana Navarro et Manouchak Fachaï. Des liens et une bibliographie sont disponibles sur notre site internet. Dole yamahan, dole yamahan, dole yamahan.